L'anarchie, sa philosophie, son idéal. Pierre Kropotkin. Loin de nous l'idée de méconnaître l'importance du second facteur, l'enseignement moral, celui surtout qui se transmet inconsciemment dans la société et résulte de l'ensemble des idées et des appréciations émises par chacun de nous sur les faits et les événements de la vie quotidienne. Mais cette force ne peut agir sur la société qu'à une seule condition, celle de ne pas être contrecarrée par un autre ensemble d'enseignements immoraux résultant de la pratique des institutions. Dans ce cas, son influence est nulle ou même néfaste. Prenez la morale chrétienne. Quel autre enseignement eût pu avoir plus de prise sur les esprits que celui qui parla au nom d'un Dieu crucifié et put agir avec toute sa force mystique, toute la poésie du martyr, toute la grandeur du pardon au bourreau? Et cependant, l'institution fut plus forte que cette religion. Bientôt, le christianisme, révolte contre la Rome impériale, fut conquis par cette même Rome. Il en accepta les maximes, les coutumes et le langage. L'Église chrétienne devint droit romain et, comme telle, fut dans l'histoire, alliée avec l'État, l'ennemi le plus acharné des institutions semi-communistes auxquelles le christianisme avait fait appel à ses premiers débuts. Pouvons-nous croire un moment que l'enseignement moral patronné par les circulaires de ministres de l'instruction publique aurait la force créatrice que le christianisme n'a pas eue? Et que peut faire l'enseignement des hommes vraiment sociaux contre l'ensemble de l'enseignement dérivé des coutumes antisociales? Reste le troisième élément, l'institution elle-même, agissant de façon à faire passer les actes sociaux à l'état d'habitude, d'instinct. Celui-là, l'histoire nous le prouve, n'a jamais manqué son but. Jamais il n'a agi comme une arme à double tranchant. Et quand il affaiblit, c'était seulement alors que, la coutume cherchant à s'immobiliser, à se cristalliser, devenant religion inattaquable elle-même, absorbait l'individu, lui ôtait toute latitude d'action et le forçait ainsi à se révolter contre ce qui arrêtait le progrès. En effet, tout ce qui fut dans le passé un élément de progrès ou un instrument de perfectionnement moral et intellectuel de la race humaine est dû à la pratique de l'appui mutuel, aux coutumes qui reconnaissent l'égalité des hommes et les amenaient à s'allier, à s'associer pour produire et consommer, à s'unir pour se défendre, à se fédérer et à ne reconnaître d'autres juges pour vider leurs différends que les arbitres qu'ils prenaient dans leur propre sein. Chaque fois que ces institutions, issues du génie populaire, lorsqu'il avait pour un moment reconquis ses libertés, chaque fois que ces institutions prenaient dans l'histoire un nouveau développement, tout le niveau moral de la société, son bien-être matériel, sa liberté, ses progrès intellectuels et l'affirmation de l'originalité individuelle entraient dans une phase ascendante. Et chaque fois, au contraire, que dans le cours de l'histoire, les hommes, soit à la suite d'une conquête étrangère, soit en raison du développement des préjugés autoritaires, devenaient de plus en plus divisés en gouvernants et gouvernés, en exploiteurs et exploités, le niveau moral baissait, le bien-être du grand nombre disparaissait pour assurer la richesse à quelques-uns, et l'esprit du siècle s'amoindrissait bientôt. C'est ce que l'histoire nous enseigne, et c'est d'elle que nous tirons notre confiance dans les institutions du communisme libre pour relever le niveau moral des sociétés, rabaissé par la pratique de l'autorité. Aujourd'hui, nous vivons côte à côte sans même nous connaître. Un jour d'élection, nous nous rencontrons dans les meetings, nous y écoutons les professions de foi mensongères ou fantaisistes d'un candidat, et nous rentrons chez nous. L'État a la charge de toutes les questions d'intérêt public, lui seul a pour fonction de veiller à ce que nous ne lésions pas l'intérêt de notre prochain, et, le cas échéant, à réparer le mal en nous châtiant. Votre voisin peut mourir de faim ou assommer ses enfants, cela ne vous regarde pas, c'est l'affaire de la police. Vous vous connaissez à peine, rien ne vous unit, tout tend à vous aliéner l'un et l'autre, et ne trouvant pas mieux, vous demandez au Tout-Puissant, jadis c'était un dieu, aujourd'hui c'est l'État, de faire son possible pour empêcher les passions antisociales d'atteindre leurs dernières limites. Dans une société communiste, cela change forcément. L'organisation du communisme ne peut être confiée à des corps législatifs, qu'ils appellent parlement, conseils municipaux ou conseils communaux. Elle doit être l'œuvre de tous, un produit du génie constructif de la grande masse. Le communisme ne peut être imposé. Il ne vivrait pas si le concours constant, journalier de tous, ne le maintenait. Il étoufferait dans une atmosphère d'autorité. Conséquemment, il ne peut exister sans créer un contact continuel entre tous pour les mille et mille affaires communes. Il ne peut vivre sans créer la vie locale, indépendante dans les plus petites unités, la rue, le pâté de maison, le quartier, la commune. Il ne répondrait pas à son but s'il ne couvrait la société d'un réseau de milliers d'associations pour satisfaire les mille besoins de luxe, d'études, de jouissance, d'amusement, lesquels ne sauraient pas non plus rester locaux, mais tendraient nécessairement, comme le font déjà les sociétés savantes, les unions cyclistes, les sociétés de sauvetage, etc., à devenir internationales. Et les coutumes sociales que le communisme, ne fût-il que partiel à ses débuts, doit forcément engendrer dans la vie, seraient déjà une force incomparablement plus puissante pour maintenir et développer le noyau des coutumes sociables que tout appareil répressif. Voilà donc la forme, l'institution sociable, à laquelle nous demandons le développement de l'esprit de bonne entente que l'Église et l'État s'étaient donné la mission de nous imposer, avec les résultats piteux que nous ne connaissons que trop. Et ces réflexions, remarquons-le, contiennent notre réponse à ceux qui affirment que communisme et anarchie ne peuvent marcher ensemble. Ils sont, vous le voyez, le complément nécessaire l'un de l'autre. Le plus puissant développement de l'individualité, de l'originalité individuelle, l'a si bien remarqué un de nos camarades, ne peut se produire que lorsque les premiers besoins de nourriture et d'abri ont été satisfaits, lorsque la lutte pour l'existence contre les forces de la nature a été simplifiée, et que le temps n'étant plus pris par les petits côtés mesquins et de la subsistance quotidienne, l'intelligence, le goût artistique, l'esprit inventif, le génie entier peuvent se développer à leur aise. Le communisme est le meilleur fondement de l'individualisme. Non pas de celui qui pousse l'homme à la guerre de chacun contre tous, et qui est le seul que l'on ait connu à ce jour, mais celui qui représente la pleine éclosion de toutes les facultés de l'homme, le développement supérieur de tout ce qu'il a d'original en lui, la plus grande fécondité de l'intelligence, du sentiment et de la volonté.